Il est 13h sur Radio Orient, bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. Le prix Nobel de la paix récompense deux ONG russes et ukrainiennes qui luttent pour les droits de l'homme, ainsi que l'opposant biélorusse emprisonné Aless Bialatski. Réaction dans ce journal de Patrick Lejaric, auteur du livre « Les raisons de la guerre en Ukraine ». Et nous reviendrons aussi sur le prix Nobel de littérature attribué à l'écrivaine française Annie Ernaux, une récompense dont se réjouit le maire de Villetaneuse, Dieunor Excellent, ville qui a inauguré en mars dernier la médiathèque Annie Ernaux. En Syrie, une opération héliportée des forces américaines en Syrie a entraîné la mort de plusieurs responsables de Daesh. La France condamne la diffusion d'un enregistrement vidéo montrant ce qui est présenté comme les aveux de deux espions français. Une mise en scène contraire au droit international, accuse le Quai d'Orsay. Enfin, la France affirme que Salah Hamouri doit pouvoir être libéré et doit pouvoir mener une vie normale à Jérusalem. Entretien avec Elsa Lefort, l'épouse de l'avocat franco-palestinien emprisonné par Israël. Le prix Nobel de la paix 2022 sonne comme une critique du régime de Vladimir Poutine. La récompense annuelle a été attribuée à trois lauréats. L'ONG russe Mémorial, dissoute l'an dernier sur ordre du Kremlin, le Centre ukrainien pour les libertés civiles et l'opposant biélorusse Aless Bialatski, actuellement incarcéré. Le comité Nobel a d'ailleurs appelé à sa libération. Emmanuel Macron a salué les trois lauréats. Pour le président français, le Nobel de la paix rend hommage à des défenseurs indéfectibles des droits humains en Europe. Artisans de la paix, ils savent pouvoir compter sur le soutien de la France, affirme le président de la République. Je vous propose à présent d'écouter la réaction de Patrick Lejaric, éditorialiste à l'Humanité. Il vient de publier « Les raisons de la guerre en Ukraine » aux éditions de l'Humanité.
Il a une orientation politique claire, le fait d'avoir récompensé Mémorial, dont il faut rappeler qu'il avait été initié par Mikhail Gorbatchev. Le fait de produire ce geste-là est clairement un geste contre le pouvoir russe. Y ajouter un militant de la Biélorussie, dont on sait que le gouvernement s'allie ou veut s'allier, en tout cas aide le gouvernement russe et M. Poutine, on voit bien qu'il y a là une signification politique qui est donnée pour renforcer, je souhaite que ça renforce réellement le camp de la paix et non pas celui des va-t-en-guerre.
Là, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour les militants de la démocratie face au pouvoir de Vladimir Poutine.
Oui, pour partie, c'est une bonne nouvelle, c'est un soutien. Mais moi, je crois que d'ailleurs, il faudrait créer les conditions, même chez nous à l'Ouest, en Europe, de faire des initiatives, des réunions avec des militants des droits de l'homme, des militants de la démocratie, des militants pacifistes russes et ukrainiens, de telle sorte que on puisse soulever un petit mouvement ici, visant non pas à continuer à faire ce qui se fait depuis ces semaines, c'est-à-dire attiser la guerre de part et d'autre, mais maintenant il faut trouver absolument un chemin de la paix, parce que là, on commence à rentrer dans une zone extrêmement inquiétante.
Patrick Lejaric, il vient de publier un livre intitulé « Les raisons de la guerre en Ukraine » aux éditions de l'Humanité. Et puis à propos de l'Ukraine, Joe Biden met en garde contre un risque d'apocalypse pour la première fois depuis la guerre froide. Le président américain a évoqué l'arme nucléaire que la Russie menace d'employer face à l'Ukraine. Emmanuel Macron a félicité hier Annie Ernaux, première française à avoir obtenu le prix Nobel de littérature pour le chef de l'État. Elle est la voix de la liberté des femmes et des oubliés du siècle, une récompense dont se réjouit le maire de Villetaneuse, ville qui a inauguré en mars dernier la médiathèque Annie Ernaux, le seul bâtiment public qui porte le nom de l'écrivaine. Le maire de Villetaneuse, Dieu Honneur excellent.
Je suis très heureux, fier, et puis vraiment toutes mes félicitations à Madame Ernaux. Vraiment, c'est formidable. C'est une récompense qu'elle mérite, c'est le prix Nobel qui récompense l'ensemble de son œuvre. Donc moi, je suis plus qu'honoré d'avoir donné le nom de notre belle médiathèque, pleine commune à Villetaneuse, le nom d'Annie Ernaux, qui, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sens, a accepté de me recevoir. Et je l'ai reçue aussi à la mairie de Villetaneuse, et elle a accepté de venir à cette inauguration. Et c'est une double fierté parce que c'est la première fois qu'un équipement porte son nom. Elle l'a jamais souhaité. Elle a accepté pour Villetaneuse parce que ça avait du sens pour elle. Bien oui, je suis fier, honoré et bien sûr heureux et heureux pour elle parce qu'elle le mérite.
Et pourquoi cela avait du sens pour elle ?
Parce que c'est très touchant. Voilà, c'est quelqu'un qui est d'une grande humanité, qui a un engagement politique très fort et qui fait les choses avec conviction, avec du sens. Voilà.
Vous dites justement, cela avait du sens pour elle, cette médiathèque Annie Ernaux. À Villetaneuse, pourquoi ?
Annie Ernaux, vraiment, c'est un choix pas comme les autres. Et c'est auteur engagé et féministe. Et puis, la date d'inauguration, on avait choisi ensemble, le 8 mars, journée symbolique de lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis parti à Cergy la rencontrer. Elle m'a reçu chez elle, vraiment avec beaucoup de respect. Et puis c'est un choix aussi d'une ville qu'elle connaissait, une ville qu'elle connaissait parce qu'elle a eu l'occasion d'aller à l'université de Villetaneuse, Paris 13. Donc elle a choisi aussi cette ville parce que j'avais partagé mon parcours aussi avec elle, Annie Ernaux étant une transfuge de classe. C'est quelqu'un qui est issu d'un milieu ouvrier, d'un milieu populaire, qui connaît aussi la réalité, la vie sociale, les difficultés socio-économiques. Donc ça avait du sens pour elle. Et puis l'engagement, mon engagement, j'ai réussi à la convaincre. Hein. Moi, je vous dis, elle n'avait jamais accepté de donner qu'un équipement public, culturel, porte son nom. Et à Villetaneuse, voilà, cette ville qui avait du sens pour elle dans son engagement, dans son action aussi politique. Donc c'est ce double sens qui est important pour nous aussi à Villetaneuse. Et tous les habitants de Villetaneuse, bien sûr, sont fiers et la remercient pour ce choix.
Et c'est aussi le sens de cette récompense, de ce prix Nobel. Hein, vous le dites, il y a également un sens politique.
Oui, parce qu'elle n'était pas originaire de cette ville et elle connaissait peu cette ville, à part un passage à l'université Sorbonne, parce que je crois qu'elle, soit elle donnait un cours, elle avait une correspondance ou avec étudiants, elle avait échangé souvent avec peut-être certains étudiants. Et puis elle est venue, elle a visité cet équipement avant l'ouverture. Et puis pour elle, avoir un lieu culturel où des livres sont mis à disposition, des personnes sont au service des habitants, un accès où on peut aller lire, aller comprendre des choses, où on a un lieu où on peut développer son esprit critique. Et cet équipement, qui est un équipement hybride aussi, qui en compte aujourd'hui un succès fou, hein, un équipement qui est ouvert le dimanche. Je vais expliquer un peu tout ce projet de médiathèque avec des espaces numériques, un lieu où on accueille le point d'information jeunesse de notre ville, un lieu où on a un auditorium où on peut projeter des films. D'ailleurs, l'événement film inspiré de son livre sera projeté, je crois que c'est le 8 mars de l'année prochaine, à Villetaneuse, bien sûr, à l'auditorium, dans cette belle médiathèque Annie Ernaux.
Le maire de Villetaneuse, Dieu Honneur excellent, au micro de François-Xavier de Calonne. Les forces américaines ont tué plusieurs responsables du groupe djihadiste État islamique en Syrie. L'attaque a eu lieu cette semaine au cours d'une opération héliportée et d'une frappe aérienne. L'opération a visé un secteur proche de la ville de Kamishli, contrôlé par les forces kurdes alliées aux troupes américaines. La France dit suivre de très près la situation de Salah Hamouri. L'avocat franco-palestinien a vu sa détention administrative prolongée de 4 mois par Israël. Le Quai d'Orsay affirme que Salah Hamouri doit pouvoir être libéré et doit pouvoir mener une vie normale à Jérusalem, où il est né et où il réside, et que son épouse et ses enfants doivent pouvoir s'y rendre pour le retrouver. Entretien sur Radio Orient avec son épouse Elsa Lefort.
C'est vrai que le ton change et on s'en félicite. C'est à la limite ce qui aurait dû être fait peut-être depuis longtemps, puisque ça fait déjà plus de 6 mois que mon époux est détenu. Maintenant, ça fait aussi plusieurs jours. Mon mari, avec 29 autres prisonniers politiques palestiniens, a débuté une grève de la faim illimitée le 25 septembre. Donc, il y a aussi ce nouveau facteur qui j'imagine, entre en compte dans ce changement de ton de la diplomatie française. Suite au lancement de sa grève de la faim, il a été transféré en guise de mesure punitive dans une cellule d'isolement, où ses conditions d'incarcération sont du coup plus difficiles encore, puisqu'il est tout seul dans une cellule petite avec un matelas vétuste, un WC, il n'y a pas de lumière du jour, et il n'a pas le droit d'aller en promenade. Le seul endroit où il a le droit d'aller pour sortir de sa cellule, c'est pour prendre une douche, mais il doit prendre ses douches en restant menotté. Voilà, et aussi un autre point qui est particulièrement inquiétant, c'est que les autorités israéliennes refusent de lui fournir du sel, qui est donc le seul ingrédient que les grévistes de la faim prennent et qui les aide à tenir pendant leur grève de la faim. Donc, en général, ils prennent uniquement de l'eau et du sel, et là... Depuis le 25 septembre, mon époux, lui, n'a du coup pris que de l'eau. Donc, ses conditions physiques se sont dégradées. Il a déjà perdu plus de 5 kilos. Donc il a été visité par le consul général de Tel Aviv et l'ambassadeur de France à Tel Aviv le 3 octobre. Voilà, donc ils ont pu constater effectivement de ces conditions de détention qui sont plus compliquées, plus difficiles, d'autant plus dans un contexte de grève de la faim. Pour le moment, sur place, la protection consulaire consiste en urgence à obtenir qu'il puisse avoir du sel, et aussi qu'il soit sorti de la cellule d'isolement parce que c'est une vraie souffrance, une souffrance supplémentaire comparée à ce qu'il vivait déjà depuis plus de 6 mois.
Hormis cette action, cette grève de la faim, comment comprenez-vous ce changement de ton du Quai d'Orsay sur la situation de Salah Hamouri ?
J'imagine que dans la mesure, comme ils le disent, où tout le monde dans la diplomatie française jusqu'au président de la République, tout le monde est mobilisé pour obtenir la libération de mon époux, pour obtenir le droit de rester, de vivre à Jérusalem, puisqu'il est sous la menace d'une expulsion de sa terre natale. Tout le monde déploie des efforts pour l'obtenir, mais en face, ils sont confrontés à un État qui n'en a que faire du respect des droits humains, pas uniquement en ce qui concerne mon époux, mais de manière générale. Et j'imagine que cette fin de non-recevoir qui est donnée par Israël, la diplomatie se trouve dans l'obligation d'intensifier parce que c'est un Français qui est détenu sans charge ni jugement depuis le 7 mars 2022. Les autorités demandent sa libération et ne l'obtiennent pas. 2 fois, sa détention a été prolongée. Donc on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il pourra finalement sortir. Et c'est pas uniquement les droits de Salah qui sont bafoués aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi la diplomatie qui se trouve face à un État qui la respecte pas non plus. Il n'y a pas uniquement un Français qui n'est pas respecté, mais la diplomatie française, elle se trouve ainsi, on pourrait même dire humiliée, parce que ils sont en train de demander ce qu'ils font dans plein d'autres pays, de demander la libération de citoyens qui ne sont pas, qui sont accusés de rien et qui sont détenus. Et plus de 6 mois après le début de la détention, le fait de n'avoir rien obtenu, de n'avoir aucun engagement, ni à court ni à long terme, je pense que même pour eux, ça doit pas être agréable.
Elsa Lefort, l'épouse de l'avocat Salah Hamouri, elle répondait à François-Xavier de Calonne. La télévision iranienne a diffusé ce qu'elle a présenté comme des aveux de deux espions français, entre guillemets, arrêtés en mai dernier. La femme française affirme qu'elle et son mari sont venus en Iran pour préparer les conditions de la révolution et du renversement du régime iranien. Un enregistrement dénoncé par la France. Le Quai d'Orsay parle d'une mise en scène indigne, révoltante, inacceptable et contraire au droit international. Le ministère français des Affaires étrangères évoque, je cite, une mascarade qui révèle le mépris de la dignité humaine qui caractérise les autorités iraniennes. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Stéphane Troussel, président socialiste du département de Seine-Saint-Denis et auteur du livre « Seine-Saint-Denis, la République au défi » aux éditions de l'Aube, une émission qui sera rediffusée dimanche à 17h. Je vous retrouve tout à l'heure à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.